Bonjour. Quelle justice en Irak pour Mélina Bouguedir, la jeune Française est soupçonnée d'avoir combattu avec Daesh. Jugée aujourd'hui à Bagdad, elle risque la mort par pendaison au terme d'une procédure soutenue par le Quai d'Orsay mais jugée expéditive par ses avocats. En Jordanie, le pouvoir tente l'apaisement après trois jours de manifestations contre la vie chère. Nous joindrons Jérôme Boruzovski à Amman. Décryptage à suivre également des élections législatives en Slovénie avec un favori qui semble faire la jonction entre la xénophobie d'un Viktor Orban et le populisme d'un BP Grillo. Et reportage dans une PME française où l'on met du concret sur les impératifs de préservation de la planète. La semaine européenne du développement durable prend fin ce dimanche. 30 minutes de procès avec la peine de mort comme issue possible pour Mélina Bouguedir. La Française de 27 ans est rejugée tout à l'heure à Bagdad par une cour pénale irakienne pour son appartenance présumée au groupe État islamique. Et son cas fait figure de symbole de ce casse-tête judiciaire autant que diplomatique autour des anciens djihadistes français arrêtés en Irak. Depuis la chute de Daesh, les autorités françaises ont toujours maintenu leur souhait de laisser la justice irakienne juger leurs ressortissants. Mais quelle justice, au juste, les avocats de Mélina Bouguedir dénonce une procédure pour le moins expéditive, Delphine Gocho.
Pendant quelques minutes, juste avant le début du procès, Mélina Bouguedir va pouvoir parler pour la première fois avec ses avocats français derrière les barreaux de la petite pièce attenante à la cour. Quelques minutes seulement pour défendre une femme qui risque la pendaison, sans connaître le dossier d'instruction, une situation inédite pour les trois pénalistes français. Puis Mélina Bouguedir va entrer dans la salle d'audience avec sa petite fille de 16 mois dans les bras. Au centre de la pièce, une cage de bois dans laquelle la jeune femme de 27 ans va faire face à ses trois juges. Il lui pose les questions qu'il pose à chaque djihadiste étrangère présumé. Comment vous appelez-vous? Avez-vous combattu pour Daesh? Avez-vous été membre de l'organisation terroriste? Son avocat irakien prendra ensuite la parole pour la défendre. Après avoir travaillé hier avec ses confrères français à une déclaration commune, chacun des avocats pourra interroger Mélina Bouguedir avant que les juges ne rendent leur verdict. Coupable, innocente, le procès n'aura duré qu'une trentaine de minutes pour sceller le sort de la Française.
Delphine Gocho à Bagdad et parmi les avocats français de Mélina Bouguedir, il y a maître William Bourdon qui dit garder l'espoir de sauver sa cliente condamnée en première instance pour entrée illégale en Irak. Elle ne l'avait pas été pour terrorisme. L'avocat dénonce donc également l'ingérence dans ce dossier du ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian. À la télévision cette semaine, il avait qualifié Mélina Bouguedir de combattante.
Les enjeux sont considérables. Nous sommes inquiets. Mais nous gardons confiance dans le fait que le premier verdict, fondé sur ces conclusions d'un magistrat instructeur, dont on ne peut pas imaginer qu'il était très câlin avec Mélina, nous continuons à espérer que le premier verdict d'acquittement soit confirmé, quels que soient tous les sous-jacents politiques. Imaginez un instant la réaction d'un ministre français. Si la France devait juger un Irakien, imaginez un instant la réaction de la France si un ministre de ce pays avait dit « avant tout procès en France, voilà ce qu'il faut faire, nous pensons que notre ressortissant est coupable, nous pensons qu'il a commis ceci ou cela ». On aurait entendu du côté du gouvernement français des cris d'orfraie. Il est important que chacun comprenne que nous, les avocats ici, on n'est pas obsédés à l'idée de faire entrer Mélina. Nous, on est là pour que le droit soit respecté, les principes ne soient pas mise en pièce.
Maître William Bourdon à Bagdad, propos recueillis par Sophie Parmentier. Et de Bagdad, nous partons à présent pour Amman, la Jordanie agitée par de nombreuses manifestations depuis trois jours. On y proteste contre la vie chère, les hausses d'impôts et des tarifs de l'électricité et de l'essence voulues par le gouvernement. Ce dernier a même dû faire machine arrière très rapidement pour éviter à tout prix une déstabilisation de la Jordanie, Jérôme Boruzovski.
Des routes bloquées, des voitures incendiées et même des coups de feu devant des commissariats. La police a dû intervenir à plusieurs reprises pour ramener le calme à Amman et Irbid au nord du pays. Les manifestants appellent le gouvernement à démissionner. À l'apogée du mouvement, mercredi, des milliers de travailleurs ont fait grève pour protester contre la hausse des impôts. Le lendemain, le gouvernement annonçait une augmentation de plus de 20% des prix de l'électricité et de 5% des prix des carburants, ce qui a ravivé la colère des manifestants. Des députés ont menacé de démissionner, une majorité de représentants du peuple s'opposent au projet fiscal du gouvernement. Très vite, le pouvoir a senti le mouvement de contestation prendre de l'ampleur et gagner le Parlement. Il a immédiatement changé de stratégie. Le roi Abdallah a ordonné le report de l'augmentation des prix de l'électricité et de l'essence. Le gouvernement a rouvert le dialogue. Ces revirements rapides traduisent une extrême prudence du pouvoir qui veut éviter de perdre la main dans cette crise. La Jordanie est un des rares pays stables du Moyen-Orient. Le pouvoir cherche donc à contenir la contestation au plus vite afin qu'elle ne profite pas aux forces d'opposition, en particulier aux partis islamistes proches des frères musulmans.
Jérôme Boruzewski à Amman pour France Culture. Quand les slogans populistes et xénophobes deviennent des politiques gouvernementales en Italie, après la fête hier pour les partisans du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, leurs ministres esquissent leurs premiers gestes politiques avant le vote de confiance qui est prévu demain au Parlement. Le désormais ministre donc de l'Intérieur, Matteo Salvini, grande figure de l'extrême droite italienne, se rend aujourd'hui en Sicile, là où débarquent les navires militaires et humanitaires qui porte secours en mer aux migrants. Salvini, on s'en souvient, déclarait hier qu'avec l'arrivée des siens au pouvoir, je cite, le bon temps est terminé pour les clandestins. Des élections législatives ce dimanche en Slovénie, le pays coincé entre le nord de l'Italie et la Hongrie, semble en passe de s'inspirer de la tendance politique chez ses deux voisins. Tendance nationaliste et anti-immigration, là encore donc, dans les discours du favori et ancien premier ministre slovène, le conservateur Janez Janša, ses discours populistes en arrive même à masquer les enjeux économiques de ce scrutin, Marie-Pierre Véran.
Avec l'une des meilleures croissances de la zone euro en 2017, une économie qui a progressé de 15% depuis 2013, un taux de chômage au plus bas, autour de 5%, et un excédent des comptes publics alors que le déficit atteignait près de 15% il y a 5 ans, le gouvernement de centre-gauche de Miro Cerar affiche un bilan plus que flatteur. Et pourtant, les Slovènes ne le créditent pas de ce redressement. Son parti plafonne à 9% dans les sondages. Il faut dire que les fruits de la croissance ne sont pas partagés. L'assainissement des comptes a entraîné d'importantes baisses de salaires et des réductions de prestations sociales. La campagne s'est d'ailleurs déroulée sur fond de revendications de hausse des salaires et des retraites après 10 années d'austérité. Et celui qui bénéficie de ce mauvais climat social, c'est donc l'ancien premier ministre conservateur Janez Janša, crédité de 25% d'intention de vote. On pourrait croire qu'il a fait campagne sur l'économie. Non, c'est un féroce discours anti-migrant qui semble lui apporter la popularité, agitant inlassablement le spectre d'une invasion de masse dans ce petit pays situé sur la route migratoire des Balkans. Il a été soutenu par le premier ministre hongrois Viktor Orbán, le chantre de la lutte contre les migrants, qui voit en lui le garant de la survie du peuple slovène et a financé plusieurs médias en sa faveur. Pourtant, si un demi-million de migrants ont transité par la Slovénie en 2015 et 2016, il n'y a dans le pays qu'un millier de réfugiés et demandeurs d'asile. Comme sourd à ce nouveau signe de populisme xénophobe, la Commission européenne et le FMI ont appelé la Slovénie à poursuivre les réformes et le programme de privatisation.
9h passées de 8 minutes, retour en France avec la ville de Provins en Seine-et-Marne qui fait du neuf avec du vieux. Une consultation des parents d'élèves des 6 écoles publiques de la ville a débouché hier sur une majorité de 62% en faveur du retour de l'uniforme obligatoire dans les salles de classe. Une panoplie de polos marines, pulls bleu clair et vestes sombres qui coûtera aux parents 140 euros par enfant et par an. La semaine européenne du développement durable s'achève aujourd'hui. Elle aura vu des centaines d'initiatives et de campagnes pour mettre du concret derrière ce terme de développement durable. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, une centaine de sociétés françaises ont participé à la semaine sans impact écologique. Un reportage dans une PME de la région parisienne de Yann Gallic.
L'écologie au quotidien, Thomas Parouti en a fait une priorité au sein de son entreprise. Directeur d'une agence de communication installée sur une péniche, il a mis en place des règles simples pour encourager ses salariés à diminuer leur impact environnemental.
On essaie de vider par exemple nos boîtes mail fréquemment, parce que 30 mails hébergés, c'est une ampoule allumée pendant une heure. On se transfère parfois des fichiers avec une clé USB parce que ça pèse moins d'un point de vue carbone. On trie nos déchets évidemment. Il y a une imprimante pour l'ensemble des collaborateurs, on essaie de réduire au maximum nos impressions.
Un effort collectif pour tous les employés, comme Jeanne, elle est stagiaire dans l'entreprise.
La première chose à faire, c'est d'éteindre notre ordinateur, notre poste de travail en quittant le bureau. Comme vous le voyez, on travaille avec les fenêtres ouvertes et non pas avec la climatisation. Même si en passant le pas de la porte, on n'était pas tous écolos dans l'âme, on le devient et c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
Thomas Parouti partage désormais son expérience avec d'autres entreprises. C'est lui qui a lancé l'idée de cette semaine sans impact écologique.
Ça provoque des prises de conscience. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que les entreprises aient de plus en plus conscience de l'impact qu'elles ont. Pour info, sur les déchets en France, 91% sont produits par les entreprises.
En France, les activités de bureau génèrent plus de 2 millions de tonnes de déchets chaque année.
Quelques mots du temps, enfin plutôt clément. En matinée, il se dégrade par l'ouest dès la mi-journée avec 29 départements qui sont placés en vigilance orange pour des risques d'orage de la façade atlantique au centre du pays. Les températures maximales cet après-midi sont prévues autour de 22 degrés dans l'ouest, 24 autour de la Méditerranée, 26 degrés pour la région parisienne.